Bon, alors comme promis, il est de retour avec nous pour les prévisions, l'automne, l'hiver de Météo Média et aussi pour un bilan de Florence, évidemment, là, qui s'est abattue sur la Caroline du Nord, la Caroline du Sud, notamment, comme prévu au cours de la fin de semaine. Donc, Patrick de Bellefeuille, météorologue, est en bout de ligne. Salut, Patrick!
Bonjour.
Florence, le bilan est quand même lourd, même si la tempête comme telle a perdu de sa vigueur là, avant de frapper les Carolines. Explique-nous ça, on parle quand même de plusieurs victimes.
Oui, mais que la tempête perde de la vigueur avant de frapper les côtes, ça c'est toujours comme ça. C'est-à-dire que les ouragans se nourrissent d'eau chaude, au moins 27 degrés Celsius. Mais quand on arrive au bord des côtes, l'eau est moins profonde. Il y a moins d'énergie qui est injectée dans le système. Donc, tous les systèmes vont perdre un petit peu avant d'arriver dans les côtes, sur les côtes. Pardon. Lui, évidemment, Florence, son problème, c'est que, surtout, elle a fait du surplace. Et parce qu'elle a fait du surplace avec un pied dans l'océan et un pied sur la terre, elle avait la capacité de pelleter de l'humidité sans arrêt et d'amener ça sous forme de pluie qui ont duré pendant des heures, mais en fait, c'est des jours. Et là, ça a fait évidemment les inondations qu'on connaît. Il ne faut pas oublier non plus que le long de la côte est, surtout particulièrement du côté des Carolines, l'élévation au-dessus du niveau de la mer n'est pas très élevée. Alors, c'est pas difficile avec ce genre de système-là d'amener une grosse vague, une marée de tempête. Ouais. Plus les vagues, plus les vents, plus les marées. Parce que quand le système est là pendant deux jours, ben là, ça veut dire que ça fait au moins quatre marées hautes. Alors, c'est normal qu'on ait connu tout ce débordement.
Oui. Déjà, le vendredi après-midi, j'animais mon émission. On annonçait deux premières victimes, une mère et son bébé. Un arbre qui est tombé sur une résidence dans laquelle se trouvaient là, les deux victimes. C'est triste à mourir. Les autres décès, est-ce que c'est surtout lié justement à des arbres qui tombaient?
Écoutez, les détails des gens qui ont perdu la vie, ça, je les ai pas tous. Je sais qu'il y a un homme qui était sorti, un homme dans la soixantaine qui était sorti, essayer de rebrancher des fils qui avaient été... défait par un arbre et il s'est électrocuté. Mais je sais que dans 85% des décès liés à des ouragans, c'est toujours dû à des noyades, c'est toujours dû à des inondations. Donc évidemment, là, l'eau est encore très présente, elle n'a même pas tout à fait fini de monter encore. Est-ce que quand on va voir tout l'eau retirée et qu'on pourra faire maison par maison, on trouvera d'autres personnes qui sont mortes? J'ai peur que oui.
Patrick, on a frais en mémoire les inondations qu'on a vécues, notamment assez fortement ici dans l'Outaouais, là, il y a un an et demi environ. Es-tu capable de nous comparer les deux situations, c'est-à-dire ce qu'ils vivent présentement en Caroline versus ce qu'on a vécu ici, notamment dans l'Outaouais, au printemps 2017?
Bon, c'est sûr que ce qu'on a vécu dans l'Outaouais, la montée des eaux s'est faite plus graduelle. Ça rend pas la chose plus facile. Je veux dire, les inondations, c'est toujours très alarmant et très désemparant. Ça, c'est certain. Eux, par exemple, c'est arrivé plus rapidement et c'est surtout accompagné de vents, des vents qui souffrent à 150 km à l'heure. Donc, en plus de ça, on a énormément de débris dans les rues et les routes. Si tu essaies de te sauver puis tu n'es pas parti avant, mais là, tu es un peu coincé là, là. Ça aussi, c'est l'autre problème. Mais je veux pas rabaisser les inondations de l'Outaouais qui avaient été, à mon avis, assez désastreuses. Je connais même personnellement encore des gens qui n'ont pas fini de reconstruire.
Ben oui, moi aussi d'ailleurs. Donc, ça ne bouge pas beaucoup. Est-ce que ça veut dire qu'on va être épargné pour les restants de Florence ici dans l'Outaouais?
Ben, il semblerait que oui. Le front froid qui va demain passer sur le Québec, donnant un régime d'averse, va servir aussi d'un petit peu d'essuie-glace pour pousser la tempête vers les maritimes. C'est les maritimes là, qui vont être aux prises avec... je dis la tempête, bon, évidemment, est-ce qu'on appelle ça une tempête ou simplement de fortes précipitations?
Donc ici, une vague de froid, pas nécessairement énormément de pluie, c'est ça?
Oui, pas une grosse vague de froid, c'est-à-dire que on a connu un été absolument exceptionnel. C'est sûr que quand on se retrouve avec des températures qui sont un peu plus près des normales saisonnières ou même un degré sous les moyennes saisonnières, on trouve que c'est froid, mais en fait, on va simplement retourner à la case départ.
Mais pour plusieurs jours, là, on oublie les vagues de chaleur pour un bout de temps, Patrick?
Oui, tout à fait. Les petites poussées de fraîcheur qu'on a connues depuis à peu près trois semaines ne duraient pas longtemps. Celle-ci va durer entre 7 et 10 jours, ce qui va faire que ça va commencer à nous approcher du mois d'octobre.
Mais par contre, ce que je vois là, avec vos prévisions, là, on va avoir quand même un bel automne. Même, j'ai entendu que le mois de novembre s'annonce quand même assez intéressant.
Oui, c'est assez... d'abord, ce qui est particulier aussi, c'est que on a dû attendre pour sortir notre aperçu de l'automne que la vie ait repris son cours, que les gens soient plus en vacances. Puis tout ça. Puis là, ça nous a placé comme aujourd'hui, donc on est à la mi-septembre. Normalement, tout le mois de septembre fait partie de notre aperçu d'automne. Puis là, on sort un aperçu d'automne. C'est difficile de parler du mois de septembre parce qu'il y a la moitié qui est déjà arrivée. Oui. C'est sûr qu'on ne peut pas se tromper, là. Mais dans la moitié à venir, oui, plus de fraîcheur que ce qu'on a connu pendant l'été. près des moyennes, peut-être un petit peu sous les moyennes. On prévoit un octobre qui, lui, va plutôt être en dents de scie, hein, avec des poussées de chaleur, des poussées de froid. Poussées de chaleur, poussées de froid, tout ce qui est poussées de chaleur, évidemment, pourrait être un été des Indiens. Et quand, normalement, la moyenne continue de descendre en novembre pour nous amener tranquillement dans l'hiver en décembre, nous, on pense que novembre va se maintenir plutôt un petit peu au-dessus de la moyenne. Donc, cette espèce de yo-yo des températures hautes et basses qu'on va connaître en octobre va plutôt se stabiliser en novembre, légèrement supérieur aux températures moyennes, ce qui fait que ça va nous amener dans un automne qui, au total, sera à peu près dans les moyennes ou très légèrement au-dessus.
Donc, un début d'hiver qui s'annonce en douceur, Patrick.
Oui, c'est assez particulier. On a une situation El Niño qui est en train de se développer. C'est pas un El Niño classique, c'est-à-dire que c'est pas un El Niño qui, ben, d'un côté, il faut que je vous dise que tous les El Niño sont différents, là, mais c'est pas un classique où l'eau chaude est empilée le long de l'Amérique du Sud, elle va rester dans le milieu de l'océan. Ça s'appelle un El Niño Modoki. Et donc, c'est moins fort que le El Niño qu'on a connu en 97, 98 ou en 2015, 2016, qui nous avait donné des hivers particulièrement doux. C'est moins fort, mais ça a quand même une influence sur la douceur de l'hiver. On fait le début de l'hiver, on va la prévision dit que ce sera relativement doux pour la saison, pour ce qui est de décembre. On ne fait pas de prédiction pour la fin de l'hiver, mais il ne faut pas oublier que statistiquement parlant, c'est prouvé que vers les mois de mars-avril, ça s'étire un peu. C'est-à-dire que de tous les mois de l'année, on est au-dessus des moyennes dans la moyenne des 10 dernières années, sauf avril-mai, qui sont un petit peu en dessous. Donc, on a l'impression que l'hiver s'étire, mais en fait, l'hiver est relativement doux sur la fin, c'est le printemps qui part pas.
Je comprends. Dernière question, Patrick, avant de te laisser aller. Je pense que c'était en 2016, justement, là, que on n'avait même pas eu de neige encore. On était le 22 décembre, mais on avait eu des journées de 15, 16, 17 degrés. Est-ce qu'on pourrait s'attendre à ça cette année, ou là, ce serait exagéré de s'avancer là-dessus, là?
Bon, c'est un peu exagéré de s'avancer là-dessus, mais c'est pas du tout le même El Niño. Là, on avait un Niño très puissant, là, 2015-2016. C'est normal qu'on ait connu ça en décembre. Là, il va être beaucoup moins puissant et pas tout à fait situé à la même place. Non, pas de cette chaleur-là pour décembre, je croirais pas. Mais quand même, températures qui seront un petit peu plus confortables. Là, demandez-moi pas de vous parler de Noël Blanc, s'il vous plaît.
On s'en reparlera une autre tantôt, Patrick.
Certainement.
On se laisse là-dessus, merci.
Bonne journée.
Voilà, Patrick de Bellefeuille, de Météo Média.